Vous écoutez
RMC.
Il est 8h et vous êtes bien sur RMC. Très bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On va vous donner dans ce journal les toutes dernières infos sur ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, avec des tirs de missiles iraniens encore cette nuit et des dizaines de bombardements américains et israéliens. Nous serons en direct du Liban, où les journalistes de RMC ont encore entendu des détonations ce matin. Une conséquence mondiale, c'est le pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz. L'Iran dit en avoir le contrôle total ce matin. Et puis vous verrez que la campagne des municipales repart de plus belle. Elle était quelque peu sur pause. Eh bien, il y a cette charge du PS, le PS qui charge la France insoumise.
Il y a donc toujours ce matin ces images impressionnantes de missiles et de panaches de fumée au Moyen-Orient.
On est au cinquième jour de cette guerre. L'Iran dit avoir tiré plus de 40 missiles cette nuit sur des cibles américaines et israéliennes. Les États-Unis affirment de leur côté avoir mené près de 2000 frappes depuis samedi. Et Israël en a encore mené des dizaines cette nuit en Iran, visant des centres de commandement. Et au Liban, où se trouvent les deux journalistes envoyés spéciales de RMC, Marion Gauthier et Inès Zegloul. Inès, vous êtes en direct ce matin pour RMC depuis Beyrouth. Il y a quelques minutes encore, la capitale était visée.
Oui, deux déflagrations impressionnantes hein, il y a quelques minutes. Ça a fait bouger les fenêtres. Une première à 6 km de là où nous nous trouvons, dans un quartier résidentiel de la banlieue sud de la capitale. D'abord à Aretrek, un bâtiment touché proche d'une école. Puis une autre frappe à Adat, cette fois-ci il y a un quart d'heure à peine. De nouvelles frappes aériennes israéliennes. Et cette épaisse fumée noire qui s'échappe, hein, qui flotte sur la capitale, visible à des kilomètres à la ronde. Pas de bilan établi pour l'heure ce matin. L'armée israélienne en joie désormais les habitants de Lailaki, à deux pas de l'aéroport international, à évacuer le plus vite possible. On continue d'entendre ça et là dans les environs. Certains habitants tirés en l'air, signal, nous a-t-on expliqué ici, pour que les résidents fuient la zone rapidement, ce qui laisse craindre de nouveaux bombardements à venir. À noter qu'on entend aussi les avions de chasse au-dessus de nos têtes dans le ciel de Beyrouth. Des attaques donc qui continuent, des attaques meurtrières qui ont déjà fait au moins 11 morts cette nuit à Beyrouth.
Inès Zegloul, en direct du Liban, envoyé spécial avec Marion Gauthier pour RMC. La télé iranienne annonce là, il y a quelques minutes, qu'il y aura ce soir en Iran, le début des funérailles nationales pour l'ex-guide suprême Ali Khamenei, qui a été abattu samedi dès les premières heures du conflit. Funérailles qui vont durer 3 jours. Israël dit déjà ce matin que son successeur sera une cible destinée à être éliminée. Voilà ce que disent les Israéliens. Parmi les faits marquants ce matin, il y a aussi l'Iran donc qui revendique la prise de contrôle totale du détroit d'Ormuz, dont on parle énormément en ce moment. Romain Houk pour RMC, c'est le fameux bras de mer qui remonte jusqu'à l'Iran et la plupart des pays du Golfe, et c'est un point de passage clé du commerce mondial.
Oui, c'est par le détroit d'Ormuz que transite 1/5 du gaz naturel et du pétrole mondial. Le blocage de ce point de passage a des conséquences déjà très concrètes sur le prix du baril de pétrole, dépassant les $80 du jamais vu depuis 2024 avec la guerre en Ukraine. Le prix du gaz européen flambe lui aussi. Tout cela met sous pression les cours boursiers du monde entier, en particulier les marchés asiatiques très dépendants des hydrocarbures produits dans la région. L'Iran menace de s'attaquer à chaque pétrolier, chaque navire qui oserait malgré tout franchir le détroit d'Ormuz. En réponse, Donald Trump assure que les États-Unis garantiront la libre circulation de l'énergie dans le monde. Pour ce faire, la marine américaine pourrait escorter des pétroliers dès que possible. Emmanuel Macron, de son côté, a assuré hier soir qu'il cherchait à construire une coalition pour permettre de sécuriser les voies maritimes essentielles, dont le canal de Suez et le détroit d'Ormuz. C'est en partie pour cette raison que le porte-avions Charles de Gaulle a été dérouté vers la Méditerranée.
Alors où est-il ce porte-avions ce matin? On sait que jusque-là il était en mer Baltique. Il doit arriver d'ici une semaine en Méditerranée. Depuis hier soir, le Languedoc, une frégate militaire, est positionnée avec des moyens de défense au large de Chypre, pays, l'Union européenne, où une base britannique a été visée avant-hier. Ce matin, c'est le soulagement. Le soulagement pour les premiers Français officiellement rapatriés par un vol affrété par Air France, qui est arrivé vers 3h du matin cette nuit à l'aéroport de Roissy en provenance d'Oman. Il avait décollé dans la soirée avec à bord une centaine de personnes dites vulnérables, comme Victoire, étudiante à Dubaï. Elle raconte son périple. Écoutez Amine Lafchin, la journaliste de RMC qui les attendait à leur arrivée.
On a fait un long, long périple. On a changé au moins 3 fois de car jusqu'à Oman. Ensuite, on a pris un avion. On a fait une escale au Caire. Et ensuite, on a fait Caire-Paris. Donc, ça a été très, très émouvant parce qu'on était tous stressés de savoir si on allait arriver à destination. Et là-bas, enfin. ça y est, de retrouver la famille, etc. C'est tellement rassurant. C'était très très dur et émouvant, mais enfin c'est fini. Je croise vraiment les doigts pour qu'ils prennent les devants et qu'ils ramènent vraiment toutes les personnes ici parce que bah, on n'est plus en sécurité à Dubaï.
Et un autre avion de rapatriement en provenance du Moyen-Orient doit arriver dans la matinée à Paris.
Et ne manquez pas, à 8h30, mon invité, ce sera Maud Bréjon. Elle est à la fois porte-parole du gouvernement, toutes ces questions bien sûr sur le rapatriement et sur l'engagement militaire de la France, mais elle est aussi désormais en charge de l'énergie. Je l'interrogerai bien sûr sur les conséquences sur les prix, prix du pétrole, prix du gaz, prix à la pompe, et même sur les conséquences sur le commerce mondial.
Combien de temps ça va durer et quelles sont les intentions des Américains dans cette guerre? Il y a le flou qui continue au point que Donald Trump et son secrétaire d'État Marco Rubio se sont contredits ces dernières heures. Rubio disait que les États-Unis avaient été incités par Israël pour se lancer dans la guerre. Trump l'a contredit en expliquant que c'était lui qui avait, je cite, peut-être forcé la main d'Israël. La campagne des municipales, on en reparle ce matin parce qu'elle avait quelque peu fait pause ces derniers jours, mais elle est repartie de plus belle. On est à 11 jours du premier tour et Cyprien Pézeril du service politique à RMC, vous êtes en direct avec nous ce matin. Il y a cette charge donc du Parti Socialiste qui se réunissait hier soir à Paris contre la France Insoumise. Les socialistes demandent aux militants insoumis de se désolidariser des récents propos de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, parce que justement le Parti Socialiste dénonce des propos antisémites de Jean-Luc Mélenchon et fixe un principe, pas d'accord national avec la France Insoumise, plus question de se rapprocher de son ancien partenaire, les deux états-majors ne se parlent plus et les ponts sont rompus. On est obligé d'y aller fort pour ne pas être éclaboussé par les polémiques de LFI, justifie un dirigeant socialiste, mais en réalité, il faut lire entre les lignes, et c'est là l'essentiel, le PS ne ferme pas la porte à des accords locaux, des accords ville par ville. D'abord, les quelques dizaines de listes communes entre insoumis et socialistes dès le premier tour ne sont pas remises en cause, comme le révélait RMC la semaine dernière. Chartres, Draguignan, Niort, il y aura bien les deux logos PS et LFI sur les mêmes affiches. Ensuite, pour les seconds tours, là encore, des accords locaux seront passés, seront d'ailleurs souvent nécessaires pour que la gauche l'emporte. En clair donc, personne n'insulte l'avenir, aucune formulation définitive, sorte de principe de réalité électorale, quitte à donner une impression d'un fait ce que je dis pas ce que je fais, admet un socialiste.
Bon, vous savez que c'est une semaine de Coupe de France en football, il y aura la suite des quarts de finale ce soir, on verra ça sur RMC, Lorient-Nice et Marseille-Toulouse. Marseille, qu'on a fait un objectif de cette compétition, Nicolas Pelletier pour RMC. Et il y a à nouveau de l'espoir depuis la victoire de dimanche à Lyon.
Oui, après la victoire contre Lyon dimanche soir, Habib Bey a exulté de nombreuses minutes devant les supporters marseillais.
Et lorsque vous générez autant d'émotions que ce qu'on a vécu avec notre peuple sur ce match-là et sur les supporters, vous devez absolument vous nourrir de ces émotions-là, l'instant T du moment où vous le vivez.
Conscient des enjeux, le technicien marseillais n'a pas le temps de savourer. Il l'assure, l'euphorie est retombée.
Par contre, on a été capable, une fois qu'on est rentré dans le vestiaire, de se parler et de très très vite redescendre. Lorsque vous êtes dans un club comme celui-ci, vous devez vous nourrir de cette émotion-là. Et il serait hors de question pour nous de ne pas célébrer, de ne pas profiter de ces moments-là.
Et pour le milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia, cette Coupe de France est un objectif prioritaire de la saison.
C'est vrai que les derniers résultats sur cette compétition n'ont pas été à la hauteur du club. Et puis tout donner pour essayer de remporter cette compétition. Donc oui, on la prend de manière naturelle en assumant les responsabilités et en sachant que dans le football, tout peut arriver.
Distancé en championnat, la Coupe de France représente l'un des derniers espoirs pour l'OM de mettre fin à la disette de 14 ans sans titre.
Hier soir, c'est Strasbourg qui s'est qualifié en demi-finale pour la première fois depuis 25 ans en gagnant 2-1 contre Reims avec deux pénaltys marqués dans les 10 dernières minutes.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h08, on va parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, le chiffre, est-ce qu'on peut commencer à évaluer l'impact de la guerre en Iran sur le pouvoir d'achat des Français?
Oui, on peut, déjà si on s'en tient finalement aux changements qui sont intervenus au cours des 5 derniers jours, oui, on sait déjà qu'il y aura un impact sur notre pouvoir d'achat. Alors ce qui concerne le plus de monde, c'est évidemment le prix des carburants. Le gazole a déjà pris 5 centimes par litre depuis samedi, le super 3 centimes, et d'ici une semaine, on sera sans doute à 10 centimes par litre, puisque les cours du brut, pour l'instant, ont augmenté de 10 à 15 dollars. Ça va représenter un surcoût qui pourrait atteindre une dizaine d'euros sur le mois de mars, si on en reste là.
La flambée des prix du gaz, c'est ce qui est le plus préoccupant ?
Alors, ça concerne moins de Français, hein, il y a 11 millions de Français qui sont raccordés au gaz, mais c'est évidemment la flambée la plus spectaculaire, puisque le prix de référence européen a bondi de 40% depuis samedi. Pour les foyers qui se chauffent au gaz, ça peut faire 25 euros de plus au cours des prochains mois sur la facture. Pour ceux qui l'utilisent uniquement pour l'eau chaude, on est plutôt sur 5 à 7 euros de surcoût par mois.
Et puis il y a tout le reste, hein, l'impact notamment sur les produits du quotidien, sur le commerce mondial.
Eh ben exactement, c'est par exemple les petits colis qui vont subir le renchérissement du transport maritime, surcoût estimé aujourd'hui à 30%. Ça concerne un Français sur trois qui se fait livrer en moyenne 2 à 3 colis par mois. Donc là, on est encore à 2 à 3 euros de surcoût par mois. Et puis il y a tous les surcoûts du quotidien, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être impacté en cascade, hein, par la hausse des prix de l'énergie, etc. Ça peut faire au final 0,1 à 0,2 points d'inflation supplémentaire au cours des prochains mois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire 15 à 30 euros par mois sur le budget de la famille. Ça peut être aussi des taux d'intérêt plus élevé. On voit déjà le taux d'intérêt à 10 ans français qui a augmenté. Donc ça veut dire des crédits immobiliers un peu plus chers. Alors pour l'instant, rien à voir avec le cauchemar de 2022-2023. Hein. Regardez le gaz, hein, il était monté à 300 euros le mégawattheure, on n'est plus qu'à 60. L'électricité reste sage. Mais pour le moment, évidemment, tout dépendra de la durée de ce conflit. Les marchés ne tablent pas pour le moment sur un conflit long, puisque par exemple le prix du gaz livré en janvier est assez proche de celui qui valait avant le conflit.
Merci Emmanuel Le Chypre, il est 8h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Restez bien avec nous dans un instant. Arnaud Demange va venir nous rejoindre à 8h30. Notez qu'on a invité dans le face-à-face. Ce sera la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui est aussi en charge de l'énergie. Je lui poserai précisément les questions qu'Emmanuel se posait à l'instant sur les conséquences sur les prix et le pouvoir d'achat. Et puis juste après, c'est le retour de Nicolas Canteloup. Face à Canteloup, c'est tous les jours, 8h50, en direct sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de Manche.
C'est tous les jours qu'il est avec nous, Arnaud Demange. Salut Arnaud.
Bonjour, bonjour tout le monde. Apolline, Élise Dangean est là, Manu Le Chypre est là. Ouais. Et oui, c'est la guerre. Ouais. On rappelle les réservistes. C'est le retour des anciens. Arnaud Demange pour vous faire rire, pour vous faire passer une guerre mondiale tout en douceur. Je suis l'ourson cajoline de la géopolitique. Et justement, on part à Dubaï parce qu'à RMC, on a Vincent Moscato qui est coincé là-bas. Alors vous avez vu ces vidéos ? Il relativise vachement, hein, parce que toutes les influenceuses depuis samedi, elles sont en PLS en story. Au secours Macron! Si ça continue, on mourira! À cause du conflit entre les gardiennes de but de la Révolution qui envoyaient des drones sur Doha.
Ah,
Doha.
Oui,
c'est la capitale du canard. Et il y a Netanyahou qui veut remettre le chat en Iran parce que le chat il est parti, puis il veut revenir. C'est un chat en fait, on ne sait pas s'il rentre ou s'il sort. Ah, j'ai mon cerveau qui gonfle, ça tire sur mes lèvres. Et ils ont bombardé le Qatar, les gens ils sont écrabouillés, c'est des rillettes de Qatar. Et c'est pareil à Doha. C'est des rillettes de Qatar et des rillettes Doha.
C'est de l'humour charcutier. C'est pour fêter Manu Le Chypre. Et alors, au milieu de tout ça, il y a Vincent Moscato. Lui, il est zen. Il fait ses vidéos.
Oh, ça va. Oh, c'est rien. Oh, ça explose un peu, mais bon. Un vestiaire de rugby après un cassoulet, ça bombarde plus, hein. Puis là, t'en as des armes chimiques. Oh, putain. T'as vu, chérie, j'ai pris un éclat d'obus dans le bras. Passe-moi le mercurochrome et un doliprane, ça va aller. Bon, le plus dur, c'est le ramadan, Apolline. On peut pas bouffer avant 18h et c'est l'enfer ici, j'ai la dalle. Bon.
Lui, il va très bien, on l'embrasse.
Un magazine nommé Sarah Knafo est vendu depuis quelques jours en kiosque.
Oui, vous avez vu ça, Sarah Knafo magazine, 4,95€, 68 pages à la gloire de la candidate reconquête à Paris. Ce qui va faire un peu doublon avec Valeurs Actuelles d'ailleurs. Sarah Knafo, c'est plus qu'un magazine, c'est un voyage. Ce journal, c'est un portrait élogieux, ses idées, son enfance, son ascension politique. C'est une sorte de Marie-Claire identitaire. C'est une Marie très claire, si vous voulez. C'est modes et travail et famille et patrie. Alors l'éditeur précise avoir pris cette initiative sans idéologie et sans être partisan. Bah tiens, 68 pages à la gloire de Sarah Knafo. Prouve-le que c'est non partisan, tiens. Allez, le mois prochain, sors-nous Stanislas Guérini Magazine. 100 pages, entièrement consacrées au ministre le plus charismatique de l'époque Macron. Oui, 100 pages. Et croyez-moi, même écrit gros, on a galéré pour les remplir. Dans Stanislas Guérini Magazine, retrouvez une interview exclusive d'Emmanuel Macron.
Mais arrêtez de m'appeler, je le connais pas ce type. Qui êtes-vous à la fin ? Stanislas Guérini Magazine, c'est chaque mercredi chez votre marchand de journaux, avec en page centrale un poster de Stanislas Guérini nu en train de regarder une interview d'Apolline de Malherbe.
Mais non !
J'espère qu'un jour je pourrai y retourner.
Et collectionne évidemment les vignettes Guérini.
Ah oui. Maman, j'ai un Stanislas Guérini qui inaugure une médiathèque à Glavion-sur-Yvette. Je peux la coller sur le frigo ?
Tu m'enlèves cette merde du frigo ! Vous achetez ? C'est sympa, non ?
Pas sûr. On y va. Suite au décès de l'ayatollah Khamenei, l'Iran décrète 7 jours fériés.
Oui, est-ce que ça marcherait dans l'autre sens ? Est-ce que si Emmanuel Macron était tué, on aurait 7 jours fériés, nous aussi ? Moi, je pense que oui. Ne serait-ce que parce qu'il n'y aurait plus Emmanuel Macron pour nous les enlever, les jours fériés.
Ah, ils enlever les jours fériés, c'est vrai.
Ils annoncent aussi 40 jours de deuil. Alors, les Iraniens, ils ne mangent pas parce que c'est le Ramadan. Les femmes portent des tchadors tout noirs. Comment on va savoir qui respecte les jours de deuil et qui s'en fout, en
fait?
Le pays va avoir besoin d'un successeur à Khamenei. Il va falloir organiser un casting, comme dans The Voice, à la recherche du nouveau guide. En fait, il y aurait 4 mollas dans des fauteuils retournés qui écoutent des candidats à l'aveugle. Alors moi, les infidèles, je leur couperais les mains et je balancerais les homosexuels, non pas du haut d'un immeuble, mais directement depuis un avion sur Israël avec ses chiennes de femmes voilées. Et je... Waouh! Oui, ben écoute, moi j'ai aimé, j'ai été dedans tout de suite. Tu vois? Crois en toi, parce que t'as l'air de rien, mais en fait t'es un putain d'ayatollah. T'as ça dans le sang, tu débats. Personne te connaît, t'ouvres la bouche, et là tu nous embarques. Là on voyage. Moi j'étais à Ispahan, j'étais à Shiraz, tu m'as mis les poils. Regarde ma barbe, elle fait une Claude François. On dirait que j'ai pris du 220, elle est dressée. Je te veux dans mon équipe. Et c'est comme ça qu'ils vont le choisir. En tout cas, moi j'ai une exigence. Que le prochain guide suprême fasse comme son prédécesseur et qu'il joue de la
cornemuse.
Incroyable. On en a parlé hier. Khamenei était cornemiste.
Ah, on dit cornemusien.
Je sais pas comment on dit. Bref, il jouait de la cornemuse au festival interceltique du Moyen-Orient. En fait, les ayatollahs, ils arrivaient. Non, mais ils passaient tous après le bagad de l'Anbiwe. Pour jouer devant les prisonniers politiques qui étaient là. Ah, arrêtez, j'avoue tout, oui, je suis sioniste. Donc, il faut à nouveau des cornemuses. En plus, ce serait très cohérent. Pourquoi ? Parce que l'Iran est devenu une terre brûlée au vent des landes de guerre. Oh mon Dieu ! C'est le Bagdad de l'Anbiwe cette fois. Allez. Je suis content d'être revenu, Manu Lechou.
Oh là là, Manu, souvent. C'était Arnaud de Manche, mesdames, messieurs. Il est 8h20, on vous accueille au 32-16. Vous êtes nombreux à réagir à cette information depuis ce matin, on vous le dit. À partir de 2035, si ça continue comme ça, il y aura un enfant sur deux qui sera scolarisé dans le privé, en tout cas à Paris. Est-ce que le privé est en train de gagner le match ? Bonjour, Mathieu. Mathieu, vous nous appelez du Nord. Je crois que vous êtes directeur commercial. Vos enfants, ils sont dans le privé ou dans le public ?
Bonjour à tous. Alors moi, mes enfants sont dans le privé et mes beaux-enfants sont dans le public.
Ah, donc vous pouvez faire une petite comparaison.
Exactement. Donc aujourd'hui, mes enfants dans le privé, on a un suivi régulier toutes les semaines. Jamais de prof d'absent ou très peu. Quand ils sont absents, remplacés ou un autre cours. C'est ce que disait un auditeur tout à l'heure. Et je compare à mon beau-fils qui est dans le public, en plus en troisième, donc une année où il y a un examen en fin d'année. Depuis le début de l'année, pas de prof d'allemand.
D'accord.
Le prof d'histoire géo absent une semaine sur deux. Et aucune explication. Là, on a fait la rentrée lundi. Lundi, le gamin avait cours normalement de 9h à 17h. Il a eu cours de 10h à midi.
Et, alors attendez, mais ça, c'est ça ce qui est fou, c'est que quand on avait tout à l'heure le témoignage de ce professeur de PS dans le privé, il disait, au fond, c'est un des points vraiment stratégiques dans le choix aussi du privé et du public, c'est que comme il y a une souplesse dans l'organisation de l'emploi du temps, bah, quand il y a un professeur absent, on le remplace, ou alors on en demande à un autre de changer l'emploi du temps, et ça, vous le constatez directement, en fait, Mathieu.
Ah, je le constate presque tous les jours vis-à-vis de mon beau-fils. Encore aujourd'hui, il était censé avoir cours de 8h à midi. Bah, là, il est encore à la maison, il a cours que de 10h à 11h. Donc, on va même pas faire le déplacement pour l'emmener, quoi.
Oui, en plus, ça complique évidemment pour tout le monde. Merci beaucoup, Mathieu, d'être intervenu au 32-16. Vous continuez à témoigner ce matin pourquoi vos enfants sont dans le public ou dans le privé. Je constate, Mathieu, et même sur les messages, qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour défendre le public ce matin.
Non, ce matin, non. Pour le coup, beaucoup de parents qui témoignent de leur choix de se diriger vers le
un choix très
Très assumé, avec plein d'arguments très différents. Et le débat qui peut continuer au 32-16, si vous le souhaitez.
Vous n'hésitez pas, bien sûr. Il est 8h28. Dans un instant, mon invité, c'est la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon. Je reviendrai évidemment sur les déclarations d'Emmanuel Macron hier, les conséquences de la guerre en Iran, à la fois sur le plan militaire, sur le plan du rapatriement de nos ressortissants sur place. On en est où, d'ailleurs? Je pose la question dans un instant. Et puis aussi sur les prix et sur le commerce mondial. Maude Bréjon, elle est aussi en charge de l'énergie, les prix du gaz, les prix du pétrole et les conséquences sur notre pouvoir d'achat. Ça se passe sur RMC et BFM TV dans un instant. Maude Bréjon, à tout de suite. Et il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
L'Iran commencera ce soir 3 jours de deuil national, début des funérailles de l'ayatollah Khamenei, tué ce week-end par des frappes israélo-américaines. Frappes qui se poursuivent. Ce matin, Israël a lancé une nouvelle offensive aérienne sur l'Iran. Cette nuit, l'État hébreu cible aussi le Liban, notamment ce matin, la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, le groupe pro-iranien. C'est dans ce contexte qu'une centaine de nos ressortissants français a atterri cette nuit à l'aéroport de Roissy. C'est le premier des 2 vols de rapatriement annoncés hier soir par Emmanuel Macron ainsi que l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle. La météo est cette journée très ensoleillée sur les 2 tiers nord du pays. Sur le tiers sud, un voile de nuages s'installe et quelques averses sur les Pyrénées. Côté température, de 15 à 20 degrés du nord au sud.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro. Quand la
compta va, tout va. C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Dans un instant, mon invité, c'est Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement. On va revenir évidemment sur le déploiement militaire au Moyen-Orient, sur le rapatriement de nos ressortissants. Et puis Maude Bréjon, c'est aussi la ministre de l'énergie. Prix du pétrole, prix du gaz, prix à la pompe, retour de l'inflation. Je lui pose toutes ces questions dans un instant sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Maude Bréjon.
Bonjour.
Vous êtes la porte-parole du gouvernement. Vous êtes également ministre en charge de l'énergie. De très nombreuses questions à vous poser ce matin après les déclarations d'Emmanuel Macron hier face à cette guerre. Ma responsabilité est d'agir. On va évidemment, je vais vous interroger dans un instant sur les conséquences de cette guerre en Iran, les conséquences militaires, les conséquences sur nos ressortissants, mais aussi les conséquences sur les prix. Vous êtes la ministre de l'énergie, les prix du pétrole, les prix du gaz, les prix à la pompe. Est-ce qu'il faut craindre aussi un retour de l'inflation, les conséquences sur le commerce mondial, sur l'essence d'abord, au moment où l'on se parle? Est-ce que vous avez constaté une hausse des prix à la pompe? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que dans les jours qui viennent, les prix à la pompe montent considérablement?
Alors, 3 choses. D'abord, il y a une grande imprévisibilité, vous le savez. Imprévisibilité sur l'étendue du conflit dans le temps et dans l'espace. Et donc, il est évidemment trop tôt pour en tirer des conclusions définitives. Ce que je veux dire ce matin, c'est 2 choses concernant l'essence, et je sais que ça inquiète beaucoup de Français. D'abord, il n'y a aucun risque de rupture d'approvisionnement. Aucun risque parce que nous avons des stocks et aucun risque parce que nous avons diversifié nos importations. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Sur la question des coûts, ça va dépendre d'une chose. Ça dépend du détroit d'Hormuz. Vous en avez beaucoup parlé sur votre antenne depuis plusieurs jours maintenant, parce que via ce détroit d'Hormuz, transite 20% du pétrole mondial. Il y a un impact sur les prix qui est limité à court terme. À court terme,
limité à combien ?
À court terme, on peut s'attendre à une hausse de quelques centimes en moyenne dans les jours à venir, je dis bien quelques centimes, avec évidemment des différences d'une station-service à une autre comme à l'habitude, mais c'est donc une hausse qui sera, je le dis, contenue, limitée, et pour la suite, cela dépend, je le redis, de l'intensité, de la durée du conflit. Le président de la République hier, dans son allocution, vous l'avez entendu, a annoncé une initiative française pour sécuriser ce détroit avec
on va y revenir parce que ça c'est la partie militaire
de telle sorte que les transits de marchandises et notamment le pétrole puissent
se faire. Maud Bréjon, Emmanuel Le Chypre ce matin le disait sur BFM TV et sur RMC, on note déjà dans un certain nombre de stations essence que le gazole a pris 5 centimes par litre depuis samedi. Le Super 3, d'ici une semaine, on sera sans doute à 10 centimes par litre parce que les cours du brut, pour l'instant, ont déjà augmenté de 10 à 15 centimes. Est-ce que vous pouvez être plus précise à combien est-ce que vous évaluez la hausse à la pompe pour les Français?
Encore une fois, je le redis, on peut pas tirer de conclusion absolue à l'heure où on se parle, parce qu'on ne sait pas encore quels seront les transits possibles dans ce détroit.
Mais quand vous nous avez dit
demain,
qu'il y avait eu
après-demain et dans trois jours,
pardon, Maud Bréjon, quand vous nous dites qu'il y aura des hausses de quelques centimes, c'est déjà le cas.
C'est déjà le cas et c'est ce qu'on estime encore une fois pour les jours à venir au total.
Donc, ça veut dire que ça ne montera pas plus que les centimes qu'il y a déjà?
À l'heure où on se parle,
Pardon, Maud Bréjon, je vais vous reposer la question parce que c'est hyper important. Il y a un grand nombre de gens qui nous écoutent sur RMC qui sont dans leur voiture. Quand vous nous dites ça va augmenter de quelques centimes, est-ce que vous prenez comme point de départ il y a une semaine? Ou est-ce que vous prenez comme point de départ aujourd'hui où on est déjà à plus 5 centimes, voire même plus 10 centimes?
Je prends en point de départ il y a une semaine, parce que le marché a en bonne partie déjà intégré ce qui était en train de se passer. Vous en parlez encore une fois depuis plusieurs jours maintenant.
Donc ça n'augmentera plus.
Encore une fois, personne, et je mentirais aux Français aujourd'hui, tant en tant que ministre de l'énergie qu'en tant que porte-parole, en tirant encore une fois des conclusions strictes et définitives. Je pense que chacun doit faire preuve de beaucoup d'humilité. Il y a dans ce conflit des informations que nous avons, et puis il y a des questions qui se posent encore et qui ne dépendent pas uniquement de nous.
À partir de quelle hausse vous considérez qu'il y aura des mesures à prendre ?
Il est beaucoup trop tôt. Il est beaucoup trop tôt pour parler de ça. La priorité, et c'est ça, ça a été ce qui a énoncé le président de la République hier, c'est précisément de faire en sorte que dans ce détroit d'Hormuz, où je le redis, 20% du pétrole, mais aussi 20% du gaz mondial circule.
On va en venir sur la question du gaz.
Les transits puissent reprendre, parce que une fois que ces transits auront pu reprendre, alors on s'attend à ce que la situation revienne à la normale, revienne à celle qu'elle était avant le début du conflit. Et donc ça, c'est aussi important à expliquer aux Français.
Certains demandent, le RN, par la voix de Marine Le Pen ce matin, demande une baisse dès maintenant de la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, ce qui permet en quelque sorte d'amortir cette augmentation des prix. Est-ce que c'est une décision que vous pourriez prendre ?
Marine Le Pen a dit plusieurs choses chez vos confrères ce matin qui m'ont beaucoup interloquée. Elle a dit, d'une part, l'État ne doit pas s'enrichir lorsque le prix de l'énergie augmente. Je rappelle à toute fin utile que le bouclier énergétique entre 2021 et 2024 a coûté 72 milliards d'euros à l'État. Ça ne s'appelle pas un enrichissement. Marine Le Pen reprend la proposition, et c'est légitime, si je puis dire, de Jordan Bardella,
qui l'annonçait hier, qui demandait effectivement à ce que cette TICPE et la TVA baissent.
Et la TVA sur l'ensemble des produits énergétiques à 5%. Coût total de l'opération, plus de 17 milliards d'euros. On en est au deuxième, troisième jour du conflit. Il est donc précipité, et je dirais même politicien, que de demander, encore une fois, à l'heure où on se parle, des aides à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Nous n'en sommes absolument pas là.
Est-ce que ça veut dire que vous excluez cette baisse de la TICPE? Ou est-ce que vous dites, pourquoi pas, mais pas maintenant?
Je dis que nous n'en sommes absolument pas là. Je dis que je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire ce matin dans quelle mesure ce conflit va évoluer et combien de temps il va durer. Je vous dis que nous mettons tout en œuvre, encore une fois, pour que ces transports de marchandises, que je sais essentiels pour nos compatriotes, puissent reprendre le plus tôt possible. Et je le redis, l'initiative du président, elle est absolument majeur, puisque si nous arrivons à la mettre en œuvre avec nos partenaires européens, américains, qui ont aussi un intérêt évident dans cette affaire, eh bien, nous pourrons.
J'ai bien compris. Et on va essayer de se projeter sur la question effectivement militaire et la manière dont on peut ou non refluidifier le commerce là-bas. Mais je vous repose la question. Est-ce que effectivement une baisse de la TICPE pour vous est exclue?
Je dis qu'aujourd'hui, les demandes du Rassemblement national, qui ne se limitent pas...
Mais est-ce que dans deux jours, dans trois jours, si ça a augmenté, vous pourriez dire, ah bah oui, on la baisse.
Je dis qu'une baisse de la TICPE et qu'une baisse de la TVA, parce qu'ils demandent les deux, c'est aujourd'hui évidemment inconcevable.
Mais inconcevable pendant combien de temps, jusqu'à quel point?
C'est-à-dire, de près de 20 milliards d'euros de dépenses, Apolline de Malherbe. Je vous dis, pardonnez-moi, que il est probable que le prix de l'essence augmente de quelques centimes. La réponse du Rassemblement National, c'est une dépense d'État de 20 milliards d'euros. Enfin, chacun voit bien que c'est complètement incohérent.
Pour vous, c'est incohérent. Et je rappelle que vous êtes la ministre en charge de l'énergie, Maude Bréjon. Une question aussi sur le prix du gaz. Marine Le Pen évoque une augmentation massive des prix du gaz et de l'électricité, avec une question de la mécanique de fixation des prix. On le sait désormais, et depuis la guerre en Ukraine, il y a un mécanisme de fixation des prix dans le marché commun de l'énergie, qui fait qu'on prend appui sur le prix du gaz pour décider aussi du prix de l'électricité. Et ce, malgré notre autonomie, j'allais dire, en matière électrique. De nombreux de vos prédécesseurs m'ont depuis des années dit « on va sortir de cette mécanique ». On n'en est pas sorti, on est d'accord?
Alors d'abord, on n'a jamais dit qu'on allait sortir du marché européen de l'énergie.
Ah non, pas du marché européen de l'énergie, mais sortir de cette mécanique de fixation des prix. Bruno Le Maire me l'a dit à ce micro à plusieurs reprises.
Je suis là pour dire aux Français ce à quoi ils peuvent s'attendre dans la limite des connaissances qui sont les miennes aujourd'hui. Sur l'électricité, les factures des Français seront protégées, notamment par le nucléaire français qui aujourd'hui produit à plein. Ce qui est une situation fondamentalement différente de ce qu'on a connu en 2022 où nous avions eu près de la moitié du parc nucléaire à l'arrêt à l'automne 2022. Ça, c'est la première chose. Quant à la question du gaz, il y a environ aujourd'hui 11 millions de Français qui se chauffent au gaz, qui utilisent du gaz. Pour 4 millions d'entre eux qui sont au tarif régulé, le prix ne bougera pas d'ici au renouvellement de leur contrat. Pour les 7 millions restants, ça dépendra d'une part du contrat qui est le leur, et d'autre part de la durée du conflit. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, et je le redis parce que je pense qu'encore une fois, il faut être honnête avec les gens, les propos de Marine Le Pen sont à minima précipités, je le redis pour ne pas dire politiciens, puisque à l'heure où on se parle, personne ne peut prédire la durée du conflit, l'intensité du conflit et l'étendue du conflit. En revanche, ce que je veux dire, c'est que nous suivons ça heure par heure.
J'imagine.
Les équipes de Bercy suivent la situation évidemment avec une grande rigueur et une grande vigilance. Nous avons réuni hier avec Roland Lescure les fédérations professionnelles concernées pour avoir leur remontée de terrain, pour les informer sur ce que
Mais il n'est pas question à ce stade de changer la mécanique de fixation du prix de l'énergie, donc l'électricité fixée sur le prix du gaz.
Vous savez qu'on a le prix de l'électricité le plus bas d'Europe. Voilà. Et ce, grâce au modèle énergétique et électrique français qui est basé sur le nucléaire et qui est basé sur les énergies renouvelables. Moi, je voudrais quand même qu'on ait un petit peu de mémoire. Il y a 10 jours, le Rassemblement National déposait une motion de censure parce que nous prenions la décision de développer les énergies décarbonées françaises. Précisément celles qui permettent de produire de l'électricité et de sortir de cette dépendance au gaz et au pétrole, notamment du Moyen-Orient. Donc, que Madame Le Pen mette ses discours patriotiques en cohérence avec ses actes à l'Assemblée nationale.
Maude Bréjon, il y a encore de nombreuses questions sur le pouvoir d'achat, sur la question du commerce, mais on le voit sur les images pour ceux qui nous regardent sur BFM TV. Des frappes sont en cours sur Beyrouth. Il est où le Charles de Gaulle au moment où on se parle?
Alors, vous savez que dans une approche évidemment stratégique, ce n'est pas des informations qui sont communiquées à la presse et je ne les ai pas moi-même. Ce que je peux vous dire, c'est que son arrivée en Méditerranée prend plusieurs jours. Et je n'ai pas d'informations supplémentaires.
Mais est-ce qu'il est sorti de la mer Baltique?
Je n'ai pas d'informations supplémentaires à vous communiquer. En revanche, ce que je peux vous expliquer, c'est ce qui fonde cette décision. Et ce qui fonde cette décision, c'est précisément l'imprévisibilité de ce conflit dans le temps et dans l'espace qui a amené le président de la République à faire ce choix.
Quand vous dites plusieurs jours, est-ce qu'on peut espérer qu'il soit sur place lundi ou mardi?
Je n'ai pas ces informations.
Maude Bréjon, une attitude défensive, a dit Emmanuel Macron. Mais au fond, est-ce que ce discours peut tenir? Entre le défensif et l'offensif, il y a parfois juste une microseconde. Je recevais ce matin le colonel Père de Jong sur RMC qui disait « lorsque le mot « détruire » à la source sur un certain nombre de missiles a été utilisé par Paris, Londres, et Berlin conjointement, alors si on détruit un missile alors qu'il est au sol, c'est de l'offensif. Si on détruit un missile alors qu'il est parti, mais il y a un microseconde et qu'il est à un mètre du sol, c'est du défensif. Combien de temps est-ce qu'on va pouvoir être uniquement dans le défensif ?
L'objectif du président de la République, qui est chef des armées, il est clair et il l'a énoncé hier. C'est défendre nos intérêts, défendre nos intérêts, je pense à nos emprises militaires, défendre évidemment nos ressortissants, on va en parler, défendre nos intérêts économiques, on vient d'en parler, et tenir nos engagements internationaux et avec nos partenaires stratégiques. Je pense au Qatar, je pense au Koweït, je pense aux Émirats, je pense évidemment à la Jordanie. Et nous avons dit dès les premières heures, et le président de la République a annoncé l'avoir fait hier, que nous sommes à leur côté, encore une fois, dans une posture défensive.
Avec notre nos rafales, c'est ce qu'il a dit. Vous avez parlé de la coalition. Est-ce qu'il y a déjà un début de coalition? C'est-à-dire qu'il a dit espérer cette coalition, notamment pour effectivement sécuriser le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'il y a déjà des partenaires qui ont signé, en quelque sorte?
Il y a des échanges depuis plusieurs jours maintenant. Il y a eu plusieurs communiqués conjoints, vous le savez, avec nos partenaires allemands et anglais. Le président de la République, dès le premier jour, a été en contact avec chacun de ses homologues, partenaires sur place au Moyen-Orient. Et ce, à plusieurs reprises, c'est encore le cas aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a également des contacts à son niveau avec ses homologues internationaux. Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'évidemment, tout ça avance et que nous avançons en européen, comme nous l'avons toujours fait.
Maud Bréjon, combien de Français ont été rapatriés au moment où on se parle? Combien se sont manifestés aussi comme étant dans la région et souhaitant revenir?
Alors, vous avez reçu Jean-Noël Barrot hier matin, qui vous a indiqué ce nombre de 400 000 ressortissants
sur place
dans la région. Il parlait de 25 000 Français inscrits sur le Filariane.
Le Filariane, c'est ceux qui se manifestent, effectivement, comme étant là-bas de passage.
Hein. Exactement. À l'heure où on se parle, 35 000 personnes, 10 000 donc, de plus qu'hier matin, se sont inscrits
donc ça
sur le Filariane.
Au total, le nombre de Français qui ont dit être sur place et vouloir rentrer?
400 000, c'est l'estimation des personnes sur place. Et dans ces 400 000, il y a ces 35 000 personnes qui se sont signalées et qui sont inscrites sur le fil Ariane. Moi, mon message, il est assez simple. D'abord, la France a été le premier pays à affréter des avions pour rapatrier ses ressortissants. Les États-Unis nous ont emboîté le pas, si je puis dire, mais nous avons été le premier pays à le faire. Je ne le dis pas dans une optique de compétition, vous vous en doutez bien, mais pour dire que nous sommes évidemment et que nous avons une vigilance absolue en la matière. Tous les Français qui souhaitent être rapatriés et qui souhaitent rentrer en France rentreront en France. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est le temps que ça va prendre.
Nous mettons d'autres vols aujourd'hui
en œuvre. Il y aura évidemment d'autres vols aujourd'hui. Je ne suis pas en mesure de vous dire combien, mais tout est mis en œuvre sur l'organisation des vols et évidemment sur les contacts que nous avons avec nos compatriotes sur place, avec encore une fois des équipes sur place pour prendre contact et les accompagner dans ce moment qu'on sait difficile.
Maud Bréjon, le président a également annoncé un renforcement du dispositif Sentinelle. Il a parlé de la protection de nos compatriotes les plus ciblés. Un, il pense à qui? Et deux, quel est le degré de la menace?
Dès les premières minutes, cette menace, puisqu'on sait que l'Iran, vous le savez, finance des organisations terroristes, a été prise en compte dès les premières minutes. Et donc, tous les renforcements nécessaires ont été mis en place. Là encore, dans une optique de confidentialité, nous ne divulguons pas aujourd'hui le nom, évidemment, des personnalités concernées, ni les lieux, en tout cas avec précision.
Mais il y a des personnalités particulièrement ciblées.
Ce que je peux vous dire, c'est que le ministère de l'Intérieur met tout en place. Ce n'est pas la première fois que nous avons affaire à ce type de situation. Les services sont, encore une fois, si je puis dire, extrêmement compétents, déjà organisés en la matière. Le ministre de l'Intérieur...
Est-ce qu'il y a des conseils en particulier à donner à ceux qui nous écoutent?
Le ministre de l'Intérieur... de suivre les consignes des autorités, je n'ai pas davantage à dire, mais le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est évidemment présent lors des conseils de défense. Et dès la première heure, tous les moyens nécessaires ont été mis en place pour protéger nos compatriotes.
Au-delà des prix de l'énergie, une dernière question sur l'inflation globalement. Elle était stabilisée. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que l'inflation puisse reprendre en France dans les jours ou les mois qui viennent?
Là encore, c'est des questions auxquelles il est bien trop tôt pour répondre. Notre objectif, c'est que le conflit et que la situation sur place se calme le plus rapidement possible. D'abord, dans l'intérêt des civils et des populations au Moyen-Orient, mais de cette durée du conflit dépendront les conséquences évidemment nationales.
Et une dernière question, Maud Bréjon, est-ce que vous avez des précisions à nous donner sur Cécile Kohler, Jacques Paris, est-ce qu'ils sont en sécurité?
Ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité à l'ambassade.
Merci beaucoup, Maud Bréjon, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Porte-parole du gouvernement et ministre de l'énergie. Il est 8h46 et vous êtes bien sur RMC BFM TV.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Maud Bréjon était mon invité ce matin. Et puis on retrouve le président de la République, Emmanuel Macron, qui est avec nous.
Oui. Oui, c'est bon, on peut couper. Française, français, auditeurs, auditrices, texers, texiers, sous-fifres et sous-fifrettes au fin fond du studio, Apollines et Apollins.
Oui.
Je tenais à prendre la parole pour les cons qui ne seraient pas encore au courant qu'il y a la guerre en Iran. Rappelons-le, la guerre n'est pas une bonne chose pour la paix. Les États-Unis et Israël ont décidé, main dans la main, d'actions militaires, et ce, sans respecter le droit international. Et ce n'est pas bien. Nous ne pouvons pas l'approuver, mais comme ce sont des méchants dirigeants qui ont été tués, nous laissons pisser. Oui, cela pète de partout, mais nous, la France, nous disons, comme toujours, que seule la voie diplomatique est la solution. Et c'est pourquoi je vais envoyer mon plus gros bateau, le Charles de Gaulle, mais aussi une petite frégatounette, le Patrick Juvé. Oui, vous l'avez compris, nous sommes prêts à employer la force, mais toujours de façon défensive.
Bien sûr.
Gentille. Voilà, mes chers compatriotes, je tenais à vous rendre compte, car il me semblait important de vous informer de ce que vous saviez déjà. Vive la République, vive la France, et vivement que ça se termine.
Merci, monsieur le président. Maud Bréjon, vous souhaitiez ajouter quelque chose?
Oui. Je voulais dire à président de la République. Voilà, c'est tout.
Ah oui.
Oui, parce que plus je dis le mot président de la République, plus je grimpe au gouvernement. Avant, j'étais juste porte-parole du gouvernement, et maintenant, je suis aussi, vous l'avez noté, ministre de l'énergie.
Ah oui.
Et grâce à qui? Grâce au président de la République. Donc, je remercie le président de la République, mais aussi l'action, il faut le dire, du président de la République, qui, sous l'impulsion du président de la République, a donné l'ordre, en tant que, bien sûr, de président de la République, de défendre les intérêts de la France au Moyen-Orient. Voilà. Si avec ça, je finis pas Premier ministre, je comprends plus rien.
Merci beaucoup, Maud Bréjon. Marine Le Pen, une réaction à cette allocution.
Écoutez, la guerre, évidemment, est une tragédie. Nous le savons, nous pensons, messieurs, aux victimes des bombardements et à toutes ces populations qui fuient les bombes. Oui, et je vous le dis, madame, je suis très solennelle, nous sommes très inquiets.
Inquiets pour leur sort.
Inquiets qu'ils viennent chez nous. Oui, mais écoutez, excusez-moi, mais c'est toujours comme ça que ça se termine, voilà. Alors pourquoi ils viennent toujours chez nous, vers l'Occident, alors qu'ils nous détestent, alors que le Pakistan est juste à côté, qu'ils sont alliés en plus, et la Russie, ils sont alliés avec la Russie aussi, donc je le dis à tous ces réfugiés, réfugiez-vous vers le Nord, n'est-ce pas les Iraniens? La Russie, c'est très beau en plus, c'est presque le printemps.
Ah oui.
Il y a à peine 4 mètres de neige là-bas. Faites-vous plaisir, et puis avec un peu de chance, vous serez enrôlé avec les troupes russes pour aller en Ukraine, voilà. Et vous verrez là-bas, vous sentirez comme chez vous, c'est tout détruit aussi.
Oh, merci, madame Le Pen. Ce matin, Thibaut Texer est avec nous pour les titres. Bonjour Thibaut.
Eh oui, bonjour Apolline, ici Thibaut Texer, le journaliste à la voix tellement puissante qu'on la surnomme la voix Tolla. Oh, c'est parti pour les titres. L'Iran annonce à l'instant qu'en représailles aux attaques, il n'enverra encore pas moins de 8 films iraniens au Festival de Cannes. Et puis, des frappes israéliennes ont touché la réunion des dirigeants iraniens chargés d'élire un successeur à l'ayatollah Khamenei, un conclave a priori infructueux, à en croire les fumées noires qui s'échappaient du toit de bâtiment. Enfin, cette guerre en Iran, a de nombreuses répercussions un peu partout dans le monde, et Daniel Cohn-Bendit souhaitait réagir.
Ouais, salut Thibaut, salut Apo. Non mais faut arrêter. Faut voir le positif dans cette guerre. C'est très bon pour la planète, une guerre. Avec les prix du pétrole qui explosent, t'as entendu la Bréjon. Les gens vont enfin lâcher leur bagnole. Ils vont passer au vélo, à la marche à pied. Tu vas voir qu'on va les faire les 10 000 pas par jour. Et puis avec toutes les influenceuses confinées chez elles qui peuvent plus se baigner, ben tout ça fait tout de suite moins de plastique dans les océans. On reste positif.
Merci monsieur Cohn-Bendit. Le porte-avions Charles de Gaulle, situé actuellement en mer Baltique, va donc être redéployé en urgence en Méditerranée.
En raison d'un incident diplomatique, indépendant de notre volonté, le porte-avions Charles de Gaulle à destination du Golfe aura un retard estimé à plusieurs semaines.
Bonjour monsieur Régis, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes plus cheminot?
Non, je suis dans la marine.
Ah.
C'est super la marine. Dans la marine, t'as pas géré d'incident voyageur. Hein. Quand t'es en pleine mer, c'est très rare que t'aies une rupture de caténaire. Hein. Ou un usager qui se jette sous un porte-avions. Hein. Alors d'accord, un rafale qui décolle, ça casse les oreilles. Mais moins que les gosses qui hurlent parce qu'ils veulent regarder Gulli sur la tablette de papa, alors que sur un porte-avions, on est tranquille. Ah, y a pas d'enfant.
Bon, bah, donc vous serez quand même prochainement en Méditerranée, là.
Oh. Doucement. Pour l'instant, avec le Charles de Gaulle, on est en mer Baltique. Oui, c'est te dire si on a vu le coup venir. On est des stratèges dans la marine. Notre bateau de guerre, on le met le plus loin possible de la guerre. Ben ouais, on n'est pas con, faudrait pas qu'on nous le coule, on en a qu'un de porte-avions. Je te rassure, on va y aller en Méditerranée, mais doucement.
Ah.
On va lever le pied pour pas trop consommer. Parce qu'on a entendu Maud Bréjean avec le prix de l'essence. On n'est pas sûr de pouvoir faire le plein. Oui. Je vois que c'est pas toi qui fais le plein du Charles de Gaulle.
Non, c'est vrai,
16 heures de crampe à tenir le pistolet. Donc oui, je te le dis, on sera sur place, mais dans une petite douzaine de jours.
Ah, oui.
Après la bataille, comme si le général de Gaulle avait lancé son appel du 18 juin 40 en 1952. Pour protéger le Charles de Gaulle, il serait escorté par une frégate. Et une fois là-bas, il va récupérer une vedette, Vincent Moscato.
Ah oui.
On a le porte-avions, la frégate et la vedette. Si avec ça, on gagne pas, j'y comprends plus rien.
C'est magnifique. Merci Nicolas Cantlou, Vincent Cantlou, qu'on retrouve tous les jours à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, c'est les GG. Quel est le programme, Alain?
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Dans un instant, bien évidemment, vous venez discuter et débattre avec les GG, avec les grandes gueules. Nous serons avec Barbara Lefebvre, l'enseignante, avec une autre prof. C'est Fatima Ibounois, elle enseigne le français. Et puis notre agriculteur Didier Giraud. D'ailleurs, on parlera beaucoup agriculture dans les grandes gueules tout à l'heure, puisque nous recevons Édouard Bergeon, le réalisateur, et Jérôme Bail, l'agriculteur. Ils viennent présenter le film Rural qui tourne autour de Jérôme Bail, qui est devenu l'homme à la casquette dans le sud-ouest. Vous savez, la nouvelle figure de la révolte des agriculteurs, des paysannes. Il sera avec nous tout à l'heure dans les GG, dans les grandes gueules. Entre temps, on aura parlé d'Emmanuel Macron et de sa stratégie dans cette nouvelle guerre du Golfe. Il envoie le porte-avions Charles de Gaulle. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour la France? Venez en discuter avec nous au 32-16.